Ouellet.
Life is short.
En direct.
Léon.
Wow. Ouellet. En direct.
En vacances.
Radio X.
Ah non! Pas des remplaçants! Je pensais que ça allait être JC Ouellet puis Patricia. Désolé, c'est François Garipi, alias Monsieur Radio X, qui est jouxté pour l'occasion avec l'excellent Max. Et ça va être de même pas mal tout l'été. Bon midi, tous les auditeurs de Radio X. On est contents d'être avec vous.
On va être ensemble pendant une couple de semaines. 6, je pense.
6 semaines, ouais, je pense que c'est ça. Si Dieu le veut, là, on a besoin de s'entendre, man.
On verra après aujourd'hui là, comment ça va, puis on va renégocier les termes de notre contrat.
Je pense qu'il n'y a pas de négociation. Là, dans le regard de Philippe tantôt, notre boss qui s'en allait dîner, j'ai bien compris que c'était notre fatal destin. Il n'y en aura pas de bronzage, il n'y en aura pas d'été pour nous deux. Mais on est bien content d'être là. On a vraiment pris la peine de vous tricoter quand même un bon show ce midi. Restez avec nous jusqu'à 15h, on va être bien content, puis on va vous étonner, j'imagine, avec plein de nouveautés. Comment a été ta journée? Parce que nous, pour les lève-tards, on est avec Dan Gravel le matin. Et là, ben, à partir de 10h, comme ça, on a quitté le studio, on a pris une petite pause bouffe-booking, hein, on va appeler ça comme ça, la pause bouffe-booking. Puis là, ben, on est de retour. Comment a été ta pause booking, mon beau Max?
Hey, ben, merci de me demander. Je m'attendais à rien de moi. Moi, je suis allé prendre un soupçon de soleil tantôt.
Ouais,
j'ai vu ma douce, moi, c'est ça, ouais. Exact, pendant un court moment. Ma douce est venue me porter un Subway.
On la salue.
Ça, c'est une femme à marier.
Ouais, hein.
On va se le dire bien raide. Là.
Ça fait longtemps que vous êtes ensemble quand même, on peut le souligner. Là. C'est un vrai amour. Là.
Faudrait demander. Là.
Contrairement à d'autres gars de radio, là, nous deux, on a des blondes stables. Là. On mise sur la fidélité même, je pense, pour s'épanouir.
Oui, absolument. On est l'espèce de modèle à suivre, en quelque sorte.
Peut-être pas. Là.
Non, mais c'est ça. Les pauses vont vite entre les shows, mais c'est le fun d'être en onde autant que ça. Là, c'est sûr que ça fait beaucoup de jobs, mais on n'est pas à se plaindre là, quand on regarde les gars qui travaillent dans des usines ou les artistes du Québec.
C'est quoi la pire job? La pire job, t'as eu, Max? Moi, j'en ai eu des. J'ai fait au moins 50 jobs dans ma vie. Là. Ta pire job?
Ah, ça, c'est une bonne question. Je me souviens quand j'étais plus jeune, avant que je fasse de la radio puis avant que je me trouve en tant qu'individu dans la vie.
T'es trouvé?
Ouais, ça a été long. Mais il y a un moment donné où j'étais dans une phase de recherche, puis je m'étais trouvé une job dans un entrepôt de pneus et ma job consistait à lancer des pneus dans une 53 pieds à journée longue.
Soigner des tailleurs.
Ouais, j'étais proche de la dépression. Je te le cacherai pas. Là.
C'est l'odeur qui te menait à la dépression ou juste le soignage?
Je te dirais que juste le soignage de pneus dans une 53 pieds. C'était assez pour tuer un homme.
Ouais.
Ouais. Ça, c'était rough, toi.
Si vous avez des choses à dire au 418-670-9098, tout l'été, on va vous lire. On va même rapporter vos propos en ondes si ça vous tente. Pire job, assurément, faire la neige de minuit à 8 au Mont-Saint-Anne.
Dans un tracteur?
Ben non, mais avec des canons à neige.
OK. En quoi ça consistait?
Ben, tu te promènes en skidoo dans la montagne, puis là, il y a des canons à neige qui ont été enterrés par d'autres canons à neige. Fait que tu déterres les canons à neige, tu plugues des canons à neige, tu tires des canons à neige avec des skidoo qui n'ont pas de break. Tu te promènes de même dans la montagne de minuit à 8.
En skidoo, man.
En skidoo, t'es pisteur, en fait. Pisteur, c'est s'occuper des pistes de ski. Donc, c'est toi qui fais. Si t'es au sommet de la pyramide, t'es dans la grosse déniveleuse, là. T'es dans la grosse patente, là, celle qui va faire que les pistes de ski sont agréables à skier.
Aussi appelé le king des pentes.
Oui, ou si t'es un petit doer comme ça, un pisteur, comme on dit, tu te promènes vraiment là, d'un canon à neige à l'autre en motoneige.
Mais pour vrai, c'est ça ta pire job. Te promener en skidoo la nuit dans les montagnes. C'est un rêve, ça.
OK, non, c'est pas ça. C'est pas du tout un rêve. Là. C'est pas l'horaire, midi, minuit 8. Déjà là, c'est très contre-productif.
Oui, parce qu'habituellement, on dort à cette heure-là.
Un peu, oui, ouais. Mais c'est surtout que c'est extrêmement physique. Je me souviens de, je pense, mon troisième chiffre. J'arrive, le gars, il dit « Ouais, ça va être ça aujourd'hui, toi. » Il y avait deux canons à neige qui s'étaient enterrés, qui avaient été mal positionnés.
Oh shit.
Puis j'ai passé mon chiffre de 8 heures à déneiger les deux canons à neige.
À petite pelle carrée?
Une petite pelle en métal, là.
Ah, OK,
c'est un peu chiant, ça. Il est venu me chercher un sandwich dans le banc de neige, là.
Ouais.
Tu sais, t'es tout seul dans la nuit, t'entends quasiment les loups. Non, mais je veux dire, c'est vraiment, là, c'est pas la même ambiance qu'à 2h le dimanche en plein ski famille, là.
Non, ça, c'est clair. On dit aussi les pires jobs, terrassement.
Terrassement, c'est dur pour le dos.
J'ai eu des chums qui font du terrassement et qui font de la toiture, man, l'été,
toiture,
là.
J'ai fait faire ma toiture. Ouh. Les gars qui font de la toiture, c'est des héros. Ils devraient porter des capes.
Ouais, c'est ça. On n'a pas tous les héros qu'on mérite.
Mais non, mais les toitures, les genoux en devers toute la journée.
Oh ouais, puis
8 heures de temps, le genou sur le side.
Ah, puis d'après ce que j'ai entendu, puis vous me corrigerez si je me trompe, là, mais pour faire de la toiture, t'as pas nécessairement besoin de carte de la construction. À moins que je me trompe, ce qui veut dire que tu te ramasses avec des gars qui boivent du Monster à journée longue puis qu'ils ont une passion pour les petites pilules pas chères.
C'est ça, oh, ouais.
ça cloue, ça y va, tu sais, la job est bien faite, mais c'est ça, il y a un gros mais. Ouais. Des fois, les journées finissent à pic.
Je te dirais que parmi les jobs aussi que j'ai trouvé assez difficile à incarner, moi, tu sais, j'ai fait 15 ans de restauration. Donc, dans la restauration, il y a plein de métiers. Tu peux être serveur, tu peux être cuisinier, tu peux... Moi, j'ai commencé au bas de l'échelle. Tu sais, j'étais un gars de sillerie, donc... de la haute, là. Mm-hmm. Puis la rue voisine, c'était la rue Maguire. Là, j'arrive, mon premier job, tu sais, j'ai 15 ans, j'ai le goût de m'affranchir. Le salaire minimum est à 4,15 $. J'ai gardé mon premier talon.
Richesse.
Ça fait pas beaucoup, là. Les paquets de cigarettes étaient 2 piastres, je pense. Puis j'arrive dans un restaurant qui s'appelait chez Nicolas, sur la rue Maguire, qui n'existe plus, un restaurant italien, une table qui était quand même assez renommée. Et je postule pour être plongeur, parce que j'ai aucune... Ben en fait, j'ai même pas les skills pour faire la vaisselle dans un restaurant. Je la faisais même pas chez mes parents, on avait la vaisselle.
T'es-tu rendu avec un pinch mou à ce moment-là ou pas encore?
Ah, pas encore.
On est pré-pinch mou.
J'accède peut-être au permis de mobilette. T'sais, j'ai 14.
Okay. Hey, la belle époque, hein? Je pouvais travailler avant 14.
Puis là, j'arrive là, puis je me rends compte que premier choc culturel pour un blanc, là, comme je suis encore, là, j'étais le seul blanc à la plonge. Et là, je me rends compte que le reste des plongeurs, c'est un couple. C'est un couple de Vietnamiens qui viennent tout juste d'arriver. Et dans leur pays, ils étaient ingénieurs.
C'est une bonne drop. Là.
Là, je me rends compte qu'à 4,15 $, ça va être long de me ramasser la mobilette de mes rêves.
En même temps, deux ingénieurs qui lavent la vaisselle, ça devait y aller au toast.
Non, mais trois.
Les autres figures.
Trois ans après, eux avaient converti leur diplôme vietnamien en diplôme canadien. Là, parce qu'en même temps qu'ils faisaient de la plonge, ils s'étaient mis à prendre des cours de jour, des cours de soir, des cours de ci. Tu te rends compte de la détermination de ces gens-là, alors que moi, dans le fond, je voulais juste m'acheter de la bière. Tu sais, j'étais un plongeur de 15 ans.
C'était tes seules ambitions.
J'étais pas très ambitieux par rapport à eux. Puis ça m'a toujours habité cette espèce de... Mais tu sais, en fait, t'es confronté au monde pour la première fois. T'es avec tes parents, t'es habitué de pas payer pour l'épicerie puis de pas payer pour rien ou à peu près. Là, t'arrives dans la vraie vie, la restauration, c'est un vrai choc.
Formateur.
Très formateur, assurément, là, très formateur. Donc, la plonge, ça a été, je te dirais, un métier plutôt compliqué. Ben, pas un métier, mais une job plutôt compliquée. Surtout la journée où il y avait deux sets de vaisselle. Il y avait une espèce de salle. Ben oui, parce qu'il y avait une salle de réception au deuxième.
OK.
Puis là, à un moment donné, j'arrive dans mon chef, il y a normalement du monde dans la cuisine, il y a bien plus de serveurs que d'habitude. Oui, il y a un party en haut, le deuxième a été loué. OK. Sauf que c'est deux sets de vaisselle différents.
Ah, t'es pas sérieux?
Pas le droit d'émêler.
Pas deux sets de vaisselle différents.
Puis là, il y a un ascenseur en arrière de moi que j'avais jamais vu. Je me rends compte qu'il y a un ascenseur à vaisselle. Et là, ça descend. Puis là, le premier voyage, c'est marqué « Grouille-toi, il y en a plein ». J'ai tellement été dans le jus cette journée-là. Là, ça m'a donné le goût de ne pas faire de la restauration tout le reste de ma vie. J'ai quitté la restauration la tête haute en tant que barman à l'inox à 30 ans, mais ça a été 15 ans vraiment formateur.
Ouais, mais sont formatrices, ces premières jobs-là. Tu sais, moi, ma première job, j'ai travaillé au dépanneur Canex à la base militaire. Tu sais, j'ai grandi là quand j'étais plus jeune. Je servais des militaires.
Ton père, c'est 22.
Exactement. J'avais 14, peut-être 13, 14. Dans ces années-là, c'était moins.
Tu vendais des cigarettes à 13 ans.
Ah oui?
De la bière.
Et puis dans ce temps-là, mes chums arrivaient au dépanneur. Tu sais, « Hey Max, tu nous sors-tu quelque chose? » »« Non, je peux pas, mais mettez-la à sa caisse puis j'ai rien vu. » À cette époque-là. Mais une des pires jobs que j'ai faites aussi, puis il y a probablement plein de monde qui nous écoute qui font ça, livreur de poulet, man.
Ah ouais? Plus que de pizza?
Ben, j'ai jamais livré de la pizza, mais je me souviens, j'ai travaillé un moment donné quand j'étais plus jeune pour un rôtisseur quelconque,
okay,
que je nommerai pas.
Ben là.
Puis un moment donné, après 3 chiffres, je suis parti avec le poulet dans le char pendant une livraison.
Pourquoi?
Jamais revenu.
OK, tu t'attendais plus, là.
Dans ce temps-là, je fumais beaucoup de battes, hein, faut okay. Se dire.
Là, t'as mangé le poulet, là.
Une fringale est si vite arrivée, là.
Non, mais j'avoue qu'il y a des jobs qu'on... Je pense qu'on n'est pas fait pour ça.
Ouais.
J'ai déjà eu une job de téléphoniste. Fallait en fait solliciter les gens au téléphone, comme ça, une journée.
Dans un centre d'appel?
Oui, dans un centre d'appel, mon gars, je me suis levé. J'y pense, ça fera pas.
Hey, tu devais pas être un bon vendeur et tout.
Tu vas prendre ta pause. Non, non, moi, je prends mes affaires. Là, je suis en train de... Madame, je décolle. Là, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites ici, mais je pense que je serais pas capable. Et j'étais pas...
Ah ouais, je t'imagine semi dans un centre d'appel. Oui, le lave-vaisselle, oui, Dale Hunter Forever, accroche.
Non, je suis capable d'être poli, je suis capable d'être... J'ai même une patience, là, même si tu en doutes. Et de là à dire que je m'accomplirais là-dedans.
Ouais.
Salutations à tous ceux qui font du télémarketing.
On l'a tous déjà fait, je pense, partir une job pendant un shift quand on était plus jeune. Tu sais, des jobs intermédiaires d'entrée de gamme où justement tu te cherches, t'as pas vraiment d'éducation. C'est une job alimentaire là, qui te permet d'avoir un petit peu de cash à l'extérieur des études ou de juste faire ça en attendant d'autres choses. Je me souviens aussi, à un moment donné, je travaillais dans une épicerie à charcuterie puis je suis parti pendant une pause. Hey, à cette époque-là, j'étais pas fiable. Mais
non, c'était dans le frigo ben gelé.
Les choses ont changé, là, mais je me suis fait, là, une simili-jambon, ça fait.
Puis mettons, là, on va vérifier ça. Puis peut-être que les auditeurs aussi à messagerie, parce que je vous sens quand même réactif pour une journée presque de congé. Ta job de rêve, là, celle que tu aurais aimé faire, là, t'es pogné à console avec M. Radio X en été à Radio X. Là. Je devine que c'était ton ambition première, mais mettons qu'il y en avait une autre là, qui t'habitait quand t'étais petit, là, sachant que Radio X n'existait peut-être pas à l'époque. Là. Y a-tu un métier que tu aurais vraiment aimé faire? Moi, je ne sais pas, pilote d'avion, astronaute, joueur d'hockey. Y a-tu quelque chose qui ferait pareil là, à place de la console?
Ben, ici en premier lieu, mais pour répondre à ta question, man, je pense que moi, plus jeune, je voulais faire de la musique. Puis c'est drôle parce qu'il y a un lien avec tout ce qu'on vit dans l'actualité présentement. Là. Je voulais faire de la musique, je voulais devenir musicien, tu sais, faire des beats. Quand j'étais plus jeune, j'aurais peut-être aimé ça, faire des beats pour différents artistes. Ben, en quelque sorte, mais plus faire les instrumentales pour que les gens puissent rapper dessus. Enfin, puis je me souviens, quand j'étais plus jeune, mon père me regardait et fait « Tu vas peut-être être artiste! » Tu vas manger des sandwichs au beurre de pin du Kraft Dinner à journée longue.
Puis finalement?
Le jour où tu vas venir me demander du cash, ça va être non. C'était ça pareil.
Puis finalement, tu manges-tu du beurre de pinot quand même ou sans être artiste?
Non,
ou...
j'ai décidé de faire autre chose. Ça va un peu mieux, mais les artistes dans le journal, eux autres, sont pas mal en même place.
Comment t'as trouvé ça, cette sortie-là? Parce qu'un peu plus tard dans l'émission, on va parler avec Dan Moisan, un artiste de Québec très connu. Ben, relativement très connu, là, plutôt apprécié dans mon cœur, on va dire ça comme ça. Il s'est présenté pour Sam Ahmad, pour les gens qui ne sont pas capables de le situer. Dan Moisan, qui a une carrière de rocker et qui n'a jamais demandé de subvention, n'a jamais reçu d'aide gouvernementale et a fait des tournées en Angleterre et joue à la radio, puis fait des disques, puis fait des tournées, puis joue de la guitare. Il y a un side job, là, tu vas me dire, mais il ne fait pas partie de ceux qu'on a vus dans le journal en fin de semaine. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir des chanteurs, des comédiens demander qu'on tisse en fait une espèce de tissu en fait, social plus propice à leur épanouissement à nos frais? J'imagine que toi, en tant que fils de 22, des bras croisés devant moi présentement, je suis sûr que tu as déjà loadé ta réponse. Là.
Ouais, ça n'a pas passé. Là. Honnêtement, j'ai lu ça en fin de semaine, c'était difficile de voir ça pour autre chose qu'un mandat de l'UDA. Ça a l'air d'être des nouvelles qu'on essaie de vous enfoncer dans le gorgoton parce que les artistes sont en ce moment dans une espèce de révolution. On le voit là, depuis les derniers mois, là, ils demandent de plus en plus de subs. L'industrie est en perdition à cause des mégalopoles Netflix, Amazon Prime qui YouTube. Nous déconnectent. Effectivement, YouTube, les réseaux à part entière qui nous déconnectent de notre culture, comme eux autres ils disent. Puis là, plus on se déconnecte de la télé québécoise puis on s'en va sur ces plateformes-là, moins on est enclin à encourager cette culture-là. Et regardez, il y a déjà des pauvres artistes qui peinent à joindre les deux bouts. Mais j'étais comme, c'est des travailleurs autonomes, ces gens-là, les entrepreneurs qui ont de la misère à arriver, qui ont parti trois business, qui n'ont pas fonctionné et qui ont fait une multitude d'heures invisibles. Oui. On fait quoi avec eux autres?
Ben, moi, je pense
c'est moins important?
Même chose pour les sportifs. Tu sais, bon, y a des petits gars qui, toute leur vie, ont misé pour devenir joueur de hockey, puis rendu dans les remparts, ben, ils ont pas fait de la cote. Hein? Ils ont pas été repêchés en fin de semaine.
Excellent.
Ils vont faire la Ligue junior majeure du Québec, puis ça va être ça. Après ça, ils vont devenir autre chose. Est-ce que ces gens-là pleurent dans le journal? Est-ce que le gars qui n'a pas fait le Tour de France toute sa vie, là, il est devenu champion québécois, champion canadien, il n'a pas fait la cote, il s'est pas ramassé au Tour de France, c'était ça son rêve, est-ce qu'on devrait le compenser?
Ben, je pense qu'on vit dans un milieu où, de par l'aspect subventionnaire...
Parce que moi, j'ai des choses à me faire compenser, là.
Oui, j'attends le chèque. Mais tu sais, c'est un milieu subventionné en grande partie au Québec. L'industrie choisit les gagnants et les subventions sont toujours dans le pactole. Donc, j'ai l'impression que les artistes voient ça comme un dû, comme c'est l'État qui subventionne la culture. À être artiste, l'État doit être redevable pour les artistes. Fait on est dans une espèce de distorsion où nécessairement on n'encourage pas le talent, mais on encourage juste le fait d'être un artiste. Puis ça, pour moi, c'est un problème parce que c'est quoi être un artiste?
Moi, je pense qu'on peut paramétrer l'industrie culturelle québécoise pour leur donner des avantages. Comme on donne des avantages à d'autres industries.
Ben, ils en ont déjà. L'UDA, ils ont des assurances.
Pas besoin de leur donner des montants comme on a donné à Nordvolt là, pour faire du théâtre, là, pour faire des albums puis des séries télé. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une espèce de... On peut leur trouver une façon d'avoir droit au chômage, avoir droit à des... Les mêmes droits que les autres travailleurs. Si vous payez des cotisations, vous avez droit à ça.
Mais c'est des travailleurs autonomes.
On peut faire des... T'sais, on peut comprendre l'anxiété. Moi, mon père, c'est un homme de théâtre. Il travaillait à la radio de Radio-Canada. Il était réalisateur. Mais sa vraie passion, c'était le théâtre. Donc, quand il a eu 20 ans, il est parti en France, il a suivi des cours avec Marcel Marceau. Il a fait vraiment l'effort de devenir un comédien. Quand il est revenu au Québec, il a bien compris que fallait qu'il fasse d'autres choses. C'était belle fun, là, la Comédie de l'Arte, là, mais c'était pas facile d'en vivre. Et oui, il était directeur du Trident 72. Il a vécu toute sa vie de pêche, mais s'il avait vécu comme ça, de mise en scène, en rôle, ben on n'aurait pas eu de maison. Il fallait qu'il travaille à la radio de Radio-Canada. C'était sa job alimentaire. Il aimait ça, là. Il faisait du théâtre à la radio, là. Mais ça prenait un side job, tu sais, ça prenait quelque chose d'autre. Si votre passion, si votre art ne vous mène pas comme ça, là, à la fortune ou du moins à une espèce de suffisance financière, c'est peut-être que c'est pas une vraie job.
Ben, il y a assurément de ça là-dedans. Puis, tu sais, c'est intéressant ce que t'amènes ces pièces de théâtre parce que on a fait la liste là, l'autre jour avec JC Pipat des compagnies de théâtre qui sont subventionnées par la Ville
mais
de Québec.
Toutes.
Ils sont toutes,
il y en
après ma
pas
barre.
Qui sont pas.
Mais il y en a comme une vingtaine.
Oui.
Puis ces gens-là, là, une compagnie de théâtre, c'est quoi, environ 5-6 acteurs peut-être?
Bien, un jeu de compagnie de théâtre, ça va être. Par exemple, un théâtre va avoir plusieurs.
Compagnies.
Non, mais va avoir plusieurs pièces durant l'année. Mm-hmm. Des pièces qui peuvent être des duos, des solos, mais souvent, c'est 5-6. Ça prend un éclairagiste, un scénographe, un metteur en scène. Ça fait travailler des gens, puis ça prend des gens aussi à la billetterie. Pis ça, c'est des emplois concrets, là. C'est des gens qui travaillent, puis qui gagnent leur vie, puis qui payent des impôts. On comprend ça.
Mais les artistes, les acteurs qui jouent dans ces pièces de théâtre-là, juste pour prendre cet exemple-là, s'il n'y a personne d'un salle, puis ils font 3-4 représentations dans l'été ou une dizaine dans l'année, c'est le seul cash qu'ils ont. Là. Pour faire du cash dans cette industrie-là, il faut que tu sois représenté pendant une longue période de temps, que tu partes en tournée ou que tu te ramasses à travailler à la télé. Puis les gens qui se ramassent là, c'est un faible pourcentage de
très
l'industrie
faible.
Au complet. Et on est un peu menottés dans notre marché, c'est-à-dire qu'on a vraiment un petit marché culturel.
Ben oui.
Tu sais, tu peux peut-être aller t'exporter en France, mais encore là, c'est un petit pourcentage qui va réussir à le faire.
Et là, tu me fais un lien. Pourquoi est-ce qu'angine de poitrine, ça pogne autant? Parce que c'est pas en français. Tu sais, angine de poitrine,
exact.
Ça peut pogner à San Francisco, à Paris, à Sainte-Foy, whatever, il n'y en a pas de barrière linguistique. Quand on reproche aux artistes québécois souvent,
ouais.
Ben, c'est sûr que votre public est trop restreint. Vous adressez à une partie de la population qui parle français au Canada qui n'est pas si nombreuse. C'est sûr que ton public n'est pas si grand. Là. Mais si tu ouvres, si tu traduis ton œuvre, si tu fais une œuvre qui est plus accessible, peu importe la langue, le meilleur exemple, c'est Angine de poitrine. Mais là, tout ça devient complètement... T'sais, Angine de poitrine, il y avait 150 000 personnes en fin de semaine à Montréal. 150 000 personnes!
C'est complètement fou, ça.
Fait que tu sais, c'est des foules dignes de Céline Dion. Le record qui a été battu, c'est Stevie Wonder en 2009. Fait que tu comprends que... C'est pas à cause que j'en ai parlé en septembre dernier dans Montréal Live que Angine de poitrine pogne, là.
Exact.
Il y a plusieurs facteurs. Puis un des facteurs, c'est que, bon, on le sait, là, Montréal, ça parle plus même français. Si Angine de poitrine chantait la même dans la langue de Caïn, ça aurait pas le même impact. Ils ne chantent pas en français, ni même en anglais. Ils sont donc accessibles pour tous. C'est une espèce de décloisonnement de l'art. Je pense pas qu'Angine de poitrine ont bien de subventions.
Non, puis ils font partie de la nouvelle garde qui prennent les réseaux sociaux puis en font un cheval de bataille. Ils embarquent sur le cheval, puis c'est comme ça qu'ils ont réussi à convaincre le monde entier de leur existence puis de leur pertinence. On vit dans une ère où les médias sont démocratisés. Là. Regarde Mike Ward. Mike Ward, excellent humoriste, sous écoute aujourd'hui, pourrait juste vivre de ça. Il a été une des premières personnes à faire du podcast sur Internet, sur des plateformes un peu obscures, même dans le temps.
Il a pris 3 ans avant de rentabiliser le podcast sous écoute. Là, c'est...
Mais, exact, à peu près. Mais l'exemple est bon parce que lui, c'est quelqu'un qui a pris à bras-le-corps sa carrière et qui a utilisé les nouvelles plateformes pour se créer une carrière. C'est sûr que là, quand on parle d'acteurs et d'actrices, c'est plus difficile parce que, ben forcément, c'est un peu le milieu qui choisit les élus. Non, on ne le cachera pas, là. Ici, il n'y a pas grand prod qui se font, puis c'est tout le temps les mêmes acteurs.
C'est tout le temps à Montréal.
Ben oui, effectivement.
De moins en moins, le salaire Salut Bonjour Québec, là, ça s'en va. Là. Salut Bonjour Week-end, ça ne sera plus fait à partir de Québec.
Il y a une question de talent là-dedans, mais il n'y a rien qui t'empêche en tant qu'acteur ou actrice de créer tes propres courts-métrages, de créer tes propres petites séries et les faire sur YouTube. Regarde Curry Barker. C'est un bon exemple. Ça fait 2-3 fois qu'on en parle. Là. Obsession, le nouveau film d'horreur qui est sorti au cinéma en même temps que Backroom. Un film qui a été produit par un YouTuber, Curry Barker, qui lui a fait des courts-métrages de son propre chef, de son plein gré pendant une couple d'années sur YouTube. Il a été repéré par une grosse boîte. Budget de 750 000. Ça a frisé le 350 millions au box-office. Tu vois, c'est quelqu'un qui a pris de son propre chef les ressources qu'il avait, celles qui sont disponibles aujourd'hui, pour se créer une carrière. Il y a de ça aussi. Là. Si tu attends tout le temps que le monde vienne cogner avec ta pote pour t'offrir de quoi, tu vas attendre longtemps, surtout au Québec.
On le dit pas assez souvent, Xavier Dolan, je sais que c'est pas le préféré là, à Radio X, là, c'est un personnage. Au fil des années, il y en a qui sont moins attachés à Xavier Dolan. Mais j'ai tué ma mère là, paru en 2009. C'est un film qu'il a autofinancé avec ses cachets qu'il avait ramassés quand il faisait des pubs quand il était enfant pour Jean Coutu. Il faisait des pubs, il était enfant, il était cute. Les cachets que son père a mis de côté en disant « Peut-être que tu auras besoin de ça plus tard pour peut-être étudier, peut-être pour t'acheter une Corvette, whatever. » Mais finalement, là, Xavier, au lieu de s'acheter une Corvette comme j'aurais fait, il a financé son premier film avec ses propres sous. Il a dit « Je vais mettre tous mes œufs dans le même panier. » Comme Pépé, il dit, là, « Tous mes œufs dans le même panier. » Puis ça a payé.
Et ça a amené à Mommy quelques années plus tard.
Ça a amené à Mommy en 2014, 6 ans plus tard.
Et quelques années plus tard, d'autres films dont j'oublie le nom, parce que, bon, après ça, moi, Mommy, Xavier Dolan, j'ai un peu arrêté.
Là, il s'est rattrapé au niveau des subs, là, on l'a compris. Gouvernement, ouais. Quand ils l'ont spoté, il s'est épanoui par lui-même. Ouais. On va le subventionner quand même.
Mais il est allé à l'international, après. Il s'est mis à jouer avec des acteurs d'Hollywood. Effectivement. C'est un autre bon exemple. Oui. Comme quoi, ici, le marché, quand t'as vraiment, vraiment du talent, Jean-Marc Vallée, Denis Villeneuve, oui. D'autres exemples.
Oui, des gars qui ont fait leur chemin avec... En fait, de par eux-mêmes. C'est sûr que par la suite, la subvention peut faire la différence pour un film, un projet quelconque. Je pense pas qu'il faut arrêter. Moi, en fait, personnellement, je pense pas qu'il faut arrêter totalement le financement de toute entreprise au Québec. Là, chaque versant de l'entrepreneuriat québécois mérite un accompagnement gouvernemental relatif. Tu sais, relatif, là. Que ce soit des crédits d'impôt ou un congé fiscal ou peu importe, de favoriser la création d'emplois, que ce soit une mine ou un théâtre, d'emplois, faut favoriser. Faut pas nuire aux entrepreneurs. Un gars qui a un théâtre, c'est comme un gars qui a un garage. Lui, il veut que ça roule. Il veut que la caisse sonne. Il veut en vendre du popcorn. Il veut que les places soient vendues. Même affaire que Carbo, il veut que son garage, il rentre des chars dans pour que ses mécaniciens travaillent.
Ouais, Carbo, il n'y a pas de sub. Il n'y a pas de crédit d'impôt, il a peut-être profité
si
de ça.
S'il y a quelqu'un qui n'a pas de sub à Radio X, c'est quand
même. Bon, mais okay. Tu comprends, ces genres de modèles d'entreprise-là n'ont pas accès à ça. En culture, on le donne parce que, écoute, je suis à peu près d'accord avec toi. Je pense que les subventions à la première œuvre peut-être quelque chose d'intéressant parce qu'on propulse un artiste, puis après, on verra s'il est capable.
Crédit d'impôt et subvention me semblent être des termes à séparer.
Vas-y.
On peut trouver des façons d'alléger le poids fiscal. Par exemple, tu fais un film, tu fais une série télé... T'ouvres un théâtre, t'es pas obligé d'être surtaxé, paramétré. Je veux dire, tu peux proposer un certain contexte fiscal pour que cette entreprise-là naisse et se valorise d'elle-même. Puis je pense que c'est sain dans tous les types d'emplois. Que tu ouvres un restaurant, que tu ouvres une usine, une mine, un théâtre, peu importe, il y aura des gens qui vont travailler dedans. Est-ce qu'on finance full pin à l'infini pour toujours and ever? Non.
Non. Puis c'était déconnecté de la réalité de penser ça. C'est la série d'articles qu'on nous a proposés en fin de semaine.
Ben c'est surtout que...
C'était déconnecté de la réalité beaucoup.
Tu sais, on travaille, nous autres, à asseoir de notre front. Puis moi, j'ai travaillé dans d'autres domaines que la radio. Puis c'est tough de travailler, de se faire dire... je suis retourné dans une usine, j'ai travaillé en restauration avec une espèce de mépris. Est-ce que c'est le mépris? Est-ce qu'il venait de la bouche des artistes qu'on interviewait ou c'était de la plume des journalistes qu'on ajoutait comme cette espèce de mépris-là qu'on sentait à la lecture. Hein? Il a fallu que je retourne à l'usine. Il a fallu que je devienne serveuse dans un restaurant. Hey. Il a fallu que je me trouve une job à temps partiel. Comme si c'était l'humiliation, il a fallu que je retourne à l'école en droit.
Alors que tu as été privilégié. Là. Oublions-le pas. Là. Faut pas l'oublier.
Tu
as joué dans une série. Fine! Tu as écrit un livre, ça a fonctionné. Fine, man! Tu as fait des films. Tu as fait 120 000 albums qui se sont vendus. Madame Boulay, bravo à vous. Mais vous avez été privilégié l'espace d'un instant. Aujourd'hui, on peut pas forcer le public à vous écouter. Puis on peut encore moins forcer les distributeurs et les diffuseurs à vous offrir une job. Y a-t-il une question de talent? Peut-être. Y a-t-il une question de coïncidence, de conjecture? Peut-être. Mais au final, l'espace du temps où vous l'avez fait, vous avez été privilégié. Mais ça, faut pas l'oublier.
Puis dans toutes les carrières, peut-être pas chez les fonctionnaires qui ont des jobs à vie, il y a des temps un peu plus difficiles. Il y a des moments où tu doutes, il y a des moments où ça va moins bien. Dans le privé, on le voit, là, c'est moins facile, en fait. Donc, dans la vie d'artiste, c'est normal que tu sois pas... Même Michael Jackson, Bruce Springsteen, Taylor Swift, ils ont tous eu leur baisse, là. Les moments plus difficiles... Le public qui te tourne le dos, les billets qui se vendent plus, les disques qui... le disque que tu as sorti, il est pas raccord avec l'époque. On en a vu, puis des fois, ça revient. Des fois, ça reviendra jamais.
Puis parle-en à n'importe quel entrepreneur. Parlais de restauration tantôt, là. Les restaurants qui sont le long du trajet du tramway. Tu vas me dire, il n'y aurait pas dû voter pour ça, mais mettons qu'on enlève ça de l'équation.
Un restaurant, ça vote pas.
L'aide de 30 000 pour les 8 années des travaux, un restaurant sur cinq ferme après cinq ans. C'est-tu à peu près ça, la stat?
La stat est épouvantable.
C'est fou,
même plus
là.
Que ça.
C'est complètement difficile. La marge de profit, elle est mince comme des dents de crackhead. Tu comprends ce que je veux dire? Eux autres, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on les voit se plaindre une fois par année dans le journal de cette façon-là? Non, c'est bizarre parce que la culture ici, là, c'est une chasse gardée. La culture, il faut en prendre soin, même si c'est pas ça que le public veut. Parce que notre langue française, il faut la mettre de l'avant. Tout ça est dans cette espèce de traque-là qu'on nous sert depuis un an. Je trouve que c'est triste parce que... Ils s'aident pas. Ils aident pas leur cause en sortant
de
la
sorte. C'est sûr que vouloir faire pitié dans le journal en fin de semaine, ça, je pense pas que ça a été très salutaire pour leur cause, en fait.
Moi, je pense à la mère monoparentale, là, qui a deux jobs, qui a deux kids, qui a de la misère à arriver à la fin du mois,
écoute,
qui va dans des banques alimentaires une fois par mois.
Elle écoute les téléromans, puis elle a dit, pourquoi est-ce qu'on subventionnerait la fille? Oui, je l'aime, là, la fille dans Indéfendable.
Mais la fille qui va vivre une fausse vie à TV?
Mais...
Hey, voyons donc!
Mais moi, je veux dire, j'ai la misère à mettre de la bouffe sur la table.
Ben, c'est ça.
Vous me couperez pas pour qu'elle puisse vaquer comme ça à ses occupations.
Ben, on est déconnecté de la réalité. T'as-tu vu l'écrivaine Perrine Leblanc aussi? C'était dans la série d'articles.
Ça, c'était... Je pense que dans la façon d'écrire l'article... Du fait qu'on dise d'elle qu'elle a pleuré en quittant Montréal et qu'elle se ramasse dans une maison en Gaspésie avec une vue sur la mer. Ça, j'ai trouvé que c'était... Je pense que dans l'intention de l'écriture du texte du journaliste, que tu peux nommer si ça tente, il y avait vraiment cette façon-là de diriger le texte. La destination du texte, c'était de nous faire dire « Hey, la Montréalaise, on aimerait ça. Nous autres aussi, être en Gaspésie. »
Sarah Emilino, c'est elle qui a écrit le texte. Elle quitte Montréal en pleurant, comme tu l'as dit, pour habiter une grande maison spacieuse près...
Avec vue sur la mer!
Près de la mer en Gaspésie, c'est tellement triste.
Moi, je paye pour y aller.
Mais le plus drôle, c'est qu'elle nous dit, évidemment, là, elle a une vieille voiture parce qu'elle a de la misère à joindre les deux bouts. Elle n'a pas de REER, elle n'a pas de fonds de pension, elle n'a pas non plus accès au chômage. Mais il y a un mais là-dedans. Mais, c'est une quote, je voyage. Je ne suis pas une pauvre petite écrivaine.
Bon.
Qu'est-ce que vous essayez de nous vendre, là?
Ben, elle se fait inviter dans les salons. Là. C'est sûr qu'elle va à Bruxelles. Pis, c'est bien correct, là.
Ben oui, c'est bien correct.
Ben non, mais c'est...
Elle chôle dans le journal, je suis pleurant quittant Montréal pour aller en Gaspésie. Hey, fuck you! Pour vrai, là.
Ça, sérieux. Je n'ai pas aimé celle-là.
Ben non, mais... Elle joue-tu Ronald McDonald les week-ends, pis on le sait pas, hein?
Non, non, mais... Moi, je t'avoue que cette autrice-là, j'ai été moins interpellé par l'autrice que par la comédie, moi je veux dire, la serveuse automate. Hein, on va retourner à Starmania, là.
Ouais.
Tu peux être serveuse automate et comédienne on the side. Ça se peut que ça soit le même toute ta vie. Ça se peut qu'à un moment donné, tu deviennes juste comédienne. Ça se peut que tu deviennes juste serveuse. Mais combien... Moi, j'ai travaillé dans la restauration, là. Combien de serveuses comédiennes j'ai rencontrées, je veux dire, des autobus, là. Tu sais, on a tous connu une comédienne serveuse.
Oui, oui, il y en a un champagne-barge.
C'est honorable d'être serveur. Ouais. C'est honorable d'être serveuse. C'est honorable aussi jouer au théâtre et dans les films et à la télévision. Mais tu peux avoir les deux, puis tu sais, c'est pas...
En fait, la majorité ont les deux.
C'est pas un mal.
Non, c'est pas un mal. La majorité ont les deux. Les humoristes aussi, là. Il y a beaucoup d'humoristes qui sont serveurs et serveuses.
Ah, moi, j'en ai pas vu beaucoup, moi.
Ben oui.
Mike Ward, je vais prendre un gin tonic.
Mais tu vois, au bordel, la plupart des serveurs et serveuses sont des humoristes de la relève.
OK.
Qui servent le soir.
Le bordel à Montréal.
Après ça, ils vont faire des shows, ils en font une coupe pendant la semaine. Il y a des humoristes qui réussissent à vivre de leur spectacle d'un bar. Il y a une petite industrie là, qui est quand même en vase clos. Est-ce qu'ils vivent bien leur vie? Peut-être pas tant que ça, mais ils réussissent à le faire quand même.
Qu'ils soient barman, ça me va, là.
Pourquoi ils sont pas dans la série d'articles, eux?
Je pense que les humoristes, ils sont un peu gênés. Là, Je pense qu'ils sont un peu plus, comment dire, allergiques aux subs.
Je sais pas, ça. C'est-à-dire ceux qui sont pour les compagnies, juste pour rire, et toutes les autres
non, mais
dans cet apanage-là.
C'est des compagnies.
Ils sont subventionnés.
Il faut faire la différence aussi entre une compagnie comme Juste pour rire...
Mais les producteurs sont subventionnés.
Les producteurs ou les propriétaires de salles aussi qui sont subventionnés, contrairement aux artistes qui ne sont pas subventionnés pour la plupart directement. Sauf peut-être pour un album ou des projets spéciaux. Mais en tout cas, ça pour dire que je pense que ça a dégoûté la moitié de la province, puis l'autre moitié de la province est restée, comment dire, de marbre en disant « Moi, là, je travaille, je fais mes affaires, fais la même affaire. »
Ah, puis grand du là, regarde, on les subventionne-tu à côté d'embarreux, puis on ramène Virginie?
Hein, moi, j'aimais ça, Virginie.
5 soirs par semaine, la belle vie, hein, saison de 18 ans des mêmes épisodes aux 3 ans à peu près.
Il y a 1776 épisodes de Virginie.
Ouais, puis il y en a une couple qui ont refait deux fois, puis ils s'en sont même pas rendu compte.
Moi, j'aimais mieux ça, Virginie, que 30 vies, puis les nouvelles affaires. Là.
Ah, 30 vies, man. Ah.
Chantal Fontaine, qu'elle s'appelait. Hein?
C'est comme ça qu'elle s'appelait. On la salue.
Hey, je suis sorti hier. J'étais allé au centre vide. Vidéotron, pardon. C'était pas vide. C'était le fun. De Flo Rida, mais j'étais pas là pour Flo Rida. C'était les gars de Tactica qui étaient là. Deux gars de la Rive-Sud, des gars de Charny, les gars du 8-3. J'étais vraiment fier, puis je voulais vous en parler comme ça parce que, bon, je vois que le temps file. Mais rares sont les gens, les artistes de Québec qui ont l'honneur d'ouvrir pour un spectacle majeur. Tu sais, bon, on le sait, Pascal Picard avait ouvert pour Paul McCartney. Les Respectables aussi ont ouvert pour les Stones. Éric Lapointe avait fait la même chose à Paris. Mais de voir qu'à Québec, en fin de semaine, dimanche soir, au Centre Vidéotron, avant le show de Flo Rida, c'était les gars de Tactica, des gars de Charny que je couvre depuis 30 ans ou à peu près. J'étais très fier. Un super bon spectacle, en fait, qu'ils nous ont livré. S'il y a des gens qui étaient là hier à la messagerie au 418-670-9098, entrez en contact avec nous. Dites-nous vos impressions par rapport à tout ça.
C'était comment dans les premières années couvrir Tactica à Québec, scène émergente? Ben, le hip-hop était très fractionné, disons-le. C'était criminel aussi.
Ben, mettons, début des années... Ben, en fait, moi, j'étais à Chiz à l'époque, là, okay. 94.3, la radio des universitaires. Puis il y avait les architectes du son qui arrivaient en onde, puis ça fait presque 30 ans là, maintenant. Là, et eux faisaient partie de l'équation. Puis on commençait à comprendre que le hip-hop là, allait vivre en français au Québec. Puis on le voyait, là, tant du côté de la Rive-Sud que de la Rive-Nord, il y avait des hip-hopeux comme ça qui se démarquaient. Puis il n'y avait pas juste D-Natural, il y en avait plein. Puis à un moment donné, Tactica s'est comme un peu démarqué en faisant des albums. Mon Blunt, mon Mike, c'est leur premier album. Puis c'est là qu'ils sont devenus hot, parce que ça prend quand même plusieurs éléments pour que ça pogne. Ils ont joué à Musique Plus. Musique Plus, c'était la référence à l'époque. Là. Pour les plus jeunes, c'est comme l'Instagram du temps. Puis là, bien, il y a eu des demandes spéciales. Les gens appelaient. Hey, à Musique Plus, on veut entendre le 8-3, qui sont montés par la suite au Gala de la Disque sur scène.
Avec deux faces.
Deux faces, le Gémeaux. Se sont expliqués avec Guilla, deux faces, le Gémeaux. Et finalement, ont eu raison parce que la catégorie hip-hop était genre avec les prix un peu pas importants, on va dire ça comme ça.
Ah oui, la musique du monde.
La musique du monde. Puis là, un peu comme Metallica quand s'était fait voler le titre de le Grammy de l'album Metal de l'année là, par Jethro Tull. Fait que c'est sûr que, bon, tout ça pour dire que Tactica sont arrivés sur scène hier, heureux, avec des gilets marqués Tactica 30, des gilets des remparts sont arrivés, ils ont vraiment pris la scène d'assaut, les gars du 8-3 les ont joints, les gars de Limoilou Stars aussi, les gars de Black Tabou. Tu me demandais comment c'était à l'époque, ben c'était dans des trous, c'était des genre dans le sous-sol de l'Aquarena à Charny, dans une salle obscure à Limoilou, dans un sous-sol qui nous coulait de la morve sur les dents et cheveux. Je veux dire, les premières fois que j'ai vu Tactica, c'était dans des salles de marde, c'était des spectacles à 33 personnes. Et puis, de fil en aiguille, comme ça, ils se sont affranchis de leurs démons, puis ils sont devenus mainstream.
Ça fait tellement un beau lien avec ce qu'on parlait un peu plus tôt. 2002, la Disque, quand ils sont montés sur le stage,
ouais.
On est 24 ans plus tard, ils font le Centre Vidéotron.
Ouais.
Ils font une des plus grandes salles à Québec, pas dire la plus grande, mettons qu'on oublie le Festival d'été, parce que c'est une scène extérieure.
Oui, t'as raison.
Ça a pris 24 ans là, avant qu'ils se rendent là. 24 ans, ils se sont du plein.
Ils se sont plaints sur scène,
ben oui, mais
à la Disque.
C'est un stunt, on s'entend là-dessus. En 2002, il y a 24 ans, mais ils ont continué à rouler leur boss.
Ils sont montés sur scène en disant « On veut des subs, c'est des subs que ça prend. »
Fuck all!
Mais non.
Ils ont continué de faire leur musique.
On veut la lumière qui nous revient.
Exact. Oui, voilà. Puis ils ont continué de travailler fort, puis ça a pris 24 ans. Là. 24 ans! Combien d'artistes auraient abandonné dans cette quête-là? Le trois quarts de ceux qu'on avait dans le journal auraient abandonné.
Suivez l'exemple de Tactica, les artistes qui capotaient dans le journal ces temps-ci.
Oui.
24. Puis les gars ont des jobs, là. Les gars ont des jobs de jour. On compris que ce serait le fun de vivre de notre art. Ce serait le fun de vivre du rap. Mais ça va être difficile. Peut-être qu'il y a des années qu'on va être capable. Peut-être qu'il y a des années qu'on va pouvoir faire une différence dans nos familles, dans le budget de nos familles. Mais prenons pas de chance. Hein? On a des enfants. Prenons pas de chance. On a des vraies vies. Peut-être avoir un job de jour plutôt que fumer des battes en jouant en écoutant la TV ou en jouant des jeux vidéo toute la journée. Ça pourrait être une option. Puis ben c'est ce que Tactica a fait. Puis ils sont montés sur scène hier. J'étais tellement fier d'eux de voir ça. La foule heureuse, participatrice. On a souligné le départ de d'amis qui sont enlevés la vie aussi. Tactica, ça fait partie de la dynamique.
Ils sont très impliqués
dans la cause du suicide. Et puis, ils nous rappellent l'importance de lever la main si on a besoin de quelque chose, si on a besoin d'aide. La dépendance, on peut en sortir. Il y a un des membres de Tactica qui a réussi à le faire. Fait qu'on a tout levé nos cellulaires avec la lumière, puis on a pris une espèce de photo de fierté à la fin du show. Là. J'étais vraiment fier d'eux. Puis pour les fans de Black Taboo qui, à la messagerie, me demandent « Ils ont-tu joué God Bless the Topless? Écarte-toi les fesses, c'était une bonne chaîne, m'a slaqué ta laisse. » Ben non, parce qu'il y avait trop de familles, je pense, dans l'assistance. Tu la répètes?
Oui.
Parce qu'il y avait beaucoup de madames qui étaient accompagnées de leurs enfants, parce que Flo Rida, c'est un rappeur populaire familial.
Ouais. Ben, c'est pas vraiment un rappeur, Flo Rida. Ben, c'est un artiste rap. Pop. Là.
C'est un artiste. C'est
on pourrait dire que c'est un rappeur.
Bon,
là,
l'intégriste du pop, du hip-hop, là, mais c'est quand même plus un rappeur qu'un rocker.
Oui, oui, oui.
Bon, puis il est très familial, les gens l'aiment beaucoup. Fait qu'il y avait plein de familles comme ça. Je pense que c'était pas la bonne journée pour changer God Bless the Topless, pour chanter God Bless the Topless. Puis ils ont chanté Bonne Fête Tactica à la place, puis c'était ô combien formidable. J'aimerais revenir sur le show d'Angine de Poitrine. Je vois qu'il me reste quelques minutes. Quand même, 150 000 personnes qui ont envahi le centre-ville de Montréal. Je l'ai dit un peu plus tôt, là, un record battu. Stevie Wonder, en 2009... avait réussi à réunir une foule aussi importante au centre-ville. Ça fait longtemps là, que le record est à battre. Puis ben, c'est un groupe du Québec, un groupe du Saguenay, on va le dire comme ça, qui chante ni en anglais ni en français, qui a réussi à faire ça. Du mat rock microtonal. C'est vraiment la consécration du rock étrange, tel que lu dans Le Devoir ce matin. Et ben, ils seront, je vous le rappelle, le 2 août au festival. Donc, si vous avez envie de découvrir Angine de Poitrine, ben, sachez qu'ils seront dans la région de Québec au mois d'août. Puis c'est pas tellement cher, le festival, ça vaut la peine. Il y a eu quand même des blessés, hein? Une foule de 150 000 personnes, ça vient pas avec juste des personnes heureuses. Hospitalisation, je te fais entendre un extrait d'un reportage à Radio-Canada ce matin.
10 personnes ont été prises en charge par Urgence Santé lors du concert. 6 d'entre elles ont été transportées à l'hôpital pour différentes raisons, y compris des blessures liées à des chutes.
On était prêts à recevoir une foule très, très importante.
L'organisation du festival, qui parle d'une soirée historique, assure avoir tout mis en œuvre pour assurer la sécurité des festivaliers.
Et on avait un plan de match qui a été respecté tout au long de la soirée. Il y avait beaucoup de monde, effectivement, mais nous n'avons jamais perdu le contrôle. De la soirée.
On n'a jamais perdu le contrôle de la soirée, bien, c'est ce qu'on prétend. Et puis du côté de Montréal, bien, on se réjouit encore de ce spectacle qui bien, fait, je pense, va faire l'histoire au Festival de jazz de Montréal. Il y avait quand même 150 000 personnes donc, pour un spectacle de Angine de Poitrine. Puis comme je le disais, bien, Angine va être de retour à Québec ou plutôt au festival. Je vais entendre des gens en fait, qui se sont dirigés en direction du centre-ville de Montréal samedi soir pour le spectacle en question. C'est un spectacle qui était sold out et des gens qui sont arrivés très tôt et qui ont dû ben, revirer de bord.
Le centre-ville de Montréal est sold out!
Il y avait autant de gens qui arrivaient sur le site en même temps que des gens qui s'en allaient. Il y avait un fleuve de gens, une foule d'entrées et de sorties en continu.
Le spectacle à peine commencé, l'organisation a choisi de boucler certains points d'entrée au site et de rediriger des festivaliers vers le sud.
Donc, ben c'est ça. Si vous avez jamais vu Angine de Poitrine, moi, je les ai vus en spectacle, ça vaut la peine. J'y retournerai aussi au festival, j'ai très hâte. Puis, ben, pour une fois qu'il se passait de quoi de hot puis de trippant à Montréal, ben, j'étais content pour eux autres. Est-ce que t'es venu à Québec en fin de semaine au centre-ville, Max?
Ben, j'habite au centre-ville.
OK, t'étais là de facto?
Fait que je suis venu au centre-ville,
as-tu
effectivement.
As-tu remarqué qu'il y avait quand même un triathlon qui était proposé comme ça, notamment dimanche après-midi? On a barré plusieurs rues importantes ici à Québec. Triathlon, t'es-tu au courant, c'est quoi un triathlon?
C'est quelque chose qui me fait sentir vraiment pas en forme.
As-tu déjà fait ça, toi, traverser le fleuve, genre plusieurs fois? Là?
Non, en bateau, oui. À la nage, non.
As-tu déjà fait 180 km de vélo dans une même journée? Là?
Ben non, c'est une question rhétorique, ça, c'est okay. Sûr que non. Là.
As-tu déjà fait un 42 km de course à pied, c'est-à-dire un marathon?
Non, mais c'est mon rêve.
Non, mais tout ça ensemble, c'est ce que ça donne, en fait, un triathlon. Puis pour en parler, parce que ça a retenu mon attention, on a décidé de contacter un certain Ghislain Paradis. Un jeune homme avec toute la sève que ça prend dans ses veines, un gars de 80 qui a fait le triathlon en fin de semaine.
Incroyable.
Bonjour Ghislain, comment allez-vous?
Oui, bonjour, ça va très bien, je vous remercie.
Bon, avez-vous mal quelque part, là? Parce que moi, si j'avais fait un triathlon en fin de semaine, je serais pas en onde aujourd'hui. Là. Est-ce que vous avez mal aux jambes, aux bras, quelque part?
Non, j'ai un peu d'étirement à faire, c'est sûr que c'est un peu particulier au niveau de certains muscles, mais non, dans l'ensemble, c'est très bien. C'est quand, avec l'entraînement que j'ai fait, c'est un choc, évidemment, mais on peut encaisser le choc, quoi.
Moi, j'ai une maman de 88 ans. La dernière chose que je lui souhaite, c'est un triathlon. Vous avez 80. Comment est-ce qu'on se prépare, Ghislain Paradis, pour un triathlon à votre âge? Puis je le dis en tout respect, là, est-ce qu'il y a des trucs qu'on devrait retenir?
Oui, bien, la préparation, c'est d'abord la régularité. Il faut vraiment être très discipliné dans l'entraînement parce que plus on avance en âge, reprendre le temps perdu, c'est extrêmement difficile. Première chose. Deuxième chose, se donner un bon coach. Un bonhomme qui ou une bonne femme qui va nous guider, nous encadrer, mais aussi à qui on a des comptes à rendre. Fait que ça, c'est comme faire son devoir. Et puis même à 80 ans, c'est une pression là qui est, a son effet.
Pour avoir déjà eu, oui, je vous
écoute. La nourriture.
Oui. Ah oui, c'est sûr.
Bien manger, ça c'est et éviter durant la semaine et peut-être quelques jours avant l'épreuve le vin ou l'alcool.
Ça c'est votre talon d'Achille, ça, Ghislain. Vous auriez eu soif quelques heures avant, quelques jours avant, puis vous avez renoncé à la grosse gorgée.
Oui, très juste. Si vous appelez ça de même, vous, la grosse gorgée, c'est ça. Et ensuite, c'est d'avoir des amis aussi à qui on a des comptes à rendre. Moi, j'en avais parlé à quelques amis et des gens de la famille, puis évidemment ma femme Hélène là, qui m'accompagne toujours là-dedans. Et puis le fait d'avoir annoncé ou informé les copains qu'on s'entraînait pour ça, ben ça donne une obligation de résultat. Donc, c'est un autre moyen de...
Vous mettez de la pression vous-même, là.
Voilà. J'avais très bien compris.
On comprend que, tu sais, puis je suis nullement un triathlète, là, je suis un cycliste bas de gamme, on va dire ça comme ça, mais je sais la douleur qu'on peut ressentir sur une bicyclette. Qu'est-ce qui vous motive? Parce que quand on fait un triathlon, là, pendant les 180 km de bicycle, pendant que vous courez votre marathon ou quand vous êtes dans le fleuve ou du moins dans l'eau pendant une éternité, qu'est-ce qui vous garde motivé? Parce que la souffrance prend souvent le bord. Est-ce que vous avez un agenda caché? Est-ce que c'est pour vivre plus vieux que vous faites ça, Ghislain?
D'abord, je vais rectifier. Là, dans les triathlons, il y a différents niveaux
oui.
de triathlon. Okay? Et moi, je n'ai pas fait le summum là, de 180 km, etc. Là, non, ça c'est vraiment pour des gens exceptionnels. Et je dirais des gens aussi qui se situent dans un autre univers que la majorité des ours. Non. Maintenant, qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui motive comme tel? C'est vraiment de... D'abord, l'obligation de résultat qu'on s'est donné, mais aussi on sait qu'on atteint un niveau de bien-être au plan personnel, au plan psychologique, au plan cognitif, au plan mental, qu'il est difficile d'atteindre ce niveau-là autrement. Alors, après avoir connu ce que c'est, on a toujours envie de reproduire cette sensation-là. Je ne sais pas, moi, si vous faites du vélo... Puis vous montez un col en Europe,
oui.
Ça vous prend une heure à le monter, une heure et demie. Bon, ça dépend de votre vitesse, ça dépend du col. Mais je veux dire, une fois rendu en haut, il y a un niveau de satisfaction qu'on ne peut pas avoir autrement. Alors, c'est cette... Puis ensuite, mais c'est vraiment la ténacité. Il y a des gens extrêmement brillants. On sait des gens au potentiel très fort au hockey, par exemple. Mais qui ne réussissent pas à atteindre des niveaux supérieurs parce qu'ils n'ont pas la constance, la permanence, l'insistance. Il y a des gens moins bons, théoriquement, mais qui atteignent des niveaux supérieurs. Ça, c'est une question de régularité, de discipline.
Et de volonté aussi.
Voilà.
C'est intéressant ce que vous amenez comme propos, M. Paradis. Diriez-vous que vous trouvez votre satisfaction plus dans ce qui vous a amené au triathlon, dans la discipline, dans l'entraînement constant, dans les mois de préparation ou dans le triathlon en soi?
C'est une très bonne question et je vois que vous comprenez l'ensemble du processus. Je pense que l'entraînement, le processus, la préparation au triathlon amène un niveau de confort et de bien-être et de satisfaction qui se déroule dans le temps et qui est plus long que le moment comme tel de la journée du triathlon qui donne un résultat et un impact au plan personnel extrêmement important, mais le processus, la préparation et toutes les transformations que vous voyez dans votre corps, parce que votre corps, il répond à vos stimulations et vous voyez quoi vous transformez. Alors ça, c'est aussi important que l'exercice, que l'activité comme telle, le jour où ça arrive, quoi.
Ghislain Paradis, moi, j'ai déjà eu dans une ancienne vie un magasin de vélo et souvent, j'ai été confronté à des triathlètes qui arrivaient comme ça, qui débarquaient avec leur monture, avec des questions très, 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 très techniques. Ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que les triathlètes ne sont pas nécessairement de grands cyclistes. Souvent, on arrive au triathlon par la nage, par la course, parfois par le vélo, mais c'est plus rare. Vous, vous êtes arrivé au triathlon par la course, par le vélo ou par la nage?
Par le vélo.
OK, vous êtes un cycliste.
Par le vélo, non. Je suis quelqu'un, moi, qui fait, ça dépend des années, entre 4 et 6 000 km par année, bon, de vélo.
Ça, c'est beaucoup,
donc,
Max.
C'est la première simulation. Et ensuite, comme j'atteignais 80 ans cette année, je me suis donné comme défi de réaliser le triathlon comme tel. Et moi, ce que j'ai trouvé le plus dur, évidemment, j'ai appris plus jeune à nager, j'ai envie de dire à flotter, mais progressivement, comment faire en sorte que passer 20 minutes, une demi-heure dans le bassin Louise et trouver ça intéressant, c'est particulier. Ça, c'est l'exercice, l'activité, le sport que j'ai trouvé le plus difficile, surtout avec un wetsuit et vous avez la poitrine toute compressée. Vous avez 300 personnes qui se jettent à l'eau quasi en même temps que vous. Alors ça, c'est vraiment une situation unique que j'avais jamais vécue et que j'ai trouvé l'activité que j'ai trouvée la plus difficile. Ensuite, le vélo, ça a été un plaisir. Je volais.
Combien
ça,
de kilos en vélo, Justin, vous avez roulé en fin de semaine?
Pardon?
Combien de kilomètres vous aviez à rouler?
Ah non, pas beaucoup, pas beaucoup. En fin de semaine, le vélo, là, c'était 20 kilomètres.
OK, c'est ça.
C'était extrêmement facile.
C'est un triathlon sprint.
Ah non, ça, c'était très facile, oui.
Mais vos longues distances, Ghislain, quand vous allez faire des cols en Europe, j'imagine que vous êtes capable d'en faire plus que 20, là, j'en suis certain même.
Ah ben oui, on fait des sorties de 80 et 100 km, là, bon. Ça, c'est sûr.
Mais à 80 ans, Québec, à 80 ans, monsieur.
Je fais partie de deux clubs ici, moi, Saint-Augustin, puis Cap-Rose.
Ah, je veux vieillir comme vous.
On sort le mardi, le jeudi, et puis, je veux dire, ça varie entre 60 et 80 km.
C'est des bonnes sorties.
Il y a beaucoup de personnes de mon âge.
La machine va vous entretenir, mais à 80 ans quand même, là, on ne se le cachera pas. Y a-t-il un moment dans le triathlon où vous vous êtes dit « Ouais, là, non, je pense que ça se passera pas et je ne me rendrai pas à la fin. » Est-ce que vous ressentez votre âge?
Oui, je l'ai ressenti comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure là, à la natation. En me jetant à l'eau, puis les premiers 200 mètres, moi, je pensais le faire totalement au crawl. Et puis, j'ai...
Fini son petit chien.
Cherché vers la brasse parce que je trouvais ça trop difficile. Faire mes respirations, c'est que je sentais la poitrine. J'ai dû avoir une accélération de battement cardiaque. Et puis, j'ai dit non. Si je veux le terminer, il faut que je change de nage. Donc, ça m'a ralenti peut-être de 3-4 minutes là, sur l'ensemble de l'exercice. Mais non, j'ai opté pour ça. Donc, ça, j'ai trouvé ça dur à ce moment-là. Et ensuite, pour le vélo, ben, ça a été un charme. Et puis pour la course, ça a été plus difficile que je pensais. Mais bon, ça, c'est il suffit de la course, il suffit de ralentir. À la natation, tu ralentis, mais il ne faut pas que tu coules.
C'est un enjeu quand c'est même, il ne faut pas couler. On n'a pas le droit aux pertes hein, au triathlon sail. Je terminerai en disant que oui, vous êtes, on vous a entendu dans les dernières minutes, vous êtes un homme exceptionnel, Ghislain. On le comprend bien, là, à 80, faire le type d'activité physique que vous faites. Mais vous avez aussi eu une vie formidable. Vous avez été aviateur, vous avez même un MBA, je pense. Vous avez tout un parcours, là, Ghislain, là, dans votre vie. En fait, le triathlon, c'est comme une espèce de cerise sur le sundae là, pour vous.
Non, c'est que... Bon, vous êtes documenté, là, je sais à peu près où vous êtes allé. Mais bon, ceci étant dit, c'est que c'est... pas tellement le potentiel est important, mais je dirais, moi, c'est la discipline. C'est la constance. C'est ça, là, s'il y a un secret, c'est celui-là que moi, que j'aimerais partager avec les gens. C'est-à-dire que c'est... Et ça, j'ai envie de continuer. C'est sûr qu'à 80, les statistiques nous donnent encore 10 ans. 10 ans si on est chanceux. Oui. Donc... Alors, ces 10 années-là, ben, c'est progressivement une diminution des capacités qui va se ressentir. Et à ce moment-là, c'est d'autres choix que je devrais faire. Mais bon, je le ferai graduellement à mesure que le corps va me le demander, quoi, puis le corps, puis le reste. Mais non, ça va continuer. Je vais essayer de continuer d'être discipliné, puis d'être régulier, tout en prenant une bonne bouteille de vin de temps en temps, ce que j'aime beaucoup.
Fait que si je comprends bien, Ghislain Paradis, aujourd'hui même, à Radio X, on a la confirmation que l'an prochain, lorsque vous aurez 81 ans, vous serez au départ du triathlon sail de 2027?
Peut-être. Ça. Je regarde ça même. Je regarde, et probablement la réponse va être non pour cet été. Je regarde s'il n'y a pas d'autres triathlons en nous cet temps-là.
OK.
Pour voir. Mais l'an prochain,
même
peut-être.
Ça surprend un peu, là.
C'est en début de saison, hein? C'est au mois
ouais,
de
juin. Oui, c'est ça.
Donc, nager en eau vive, là, on peut s'entraîner au lac Beauport, on peut s'entraîner...
Dans votre biorhythme, ça fitterait plus au mois d'août.
Oui, bien, au mois d'août, c'est qu'on a tout l'été pour nager en eau vive, en eau libre.
Oui, vous avez raison.
C'est très différent que de faire des longueurs dans une piscine.
Ghislain Paradis, âgé de 80, qui a fait le triathlon en fin de semaine, assurément un participant d'envergure, qui peut-être l'an prochain récidivera. Vous avez tout mon respect, mon admiration. Je veux vieillir comme vous, Ghislain, puis je vous souhaite une bonne journée. Vous êtes en direction de Charlevoix avec votre blonde. Là, on va vous souhaiter la plus belle des routes, puis longue vie, Ghislain Paradis.
C'est bien gentil. Alors, bonne journée à vous. Pas de
bon.
Bonne journée. Au revoir.
Merci à vous. Une inspiration, je pense, on peut le dire comme ça. Toi, tu te lèves, là. T'as quel âge, Max?
J'ai 31.
31. Des fois, je t'entends, là, tu te déplies dans le tower. J'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux, j'ai mal partout. Imagine, 80, il fait des triathlons.
Ah, il me fait sentir cheap. Mais, en même temps, ça me motive. On est loin de Joe Biden sur un moyen temps, là.
On est loin de Joe Biden sur un moyen temps. Je pense qu'on prend une pause sur cette bonne blague. Et au retour de celle-ci, qu'est-ce qu'on a, Max? Excuse-moi, j'ai pas ma feuille.
Au retour, on parle au maire de Thetford Mines, Monsieur Marc-Alexandre Brousseau.
J'ai très hâte.
Ouellet, en direct.
En direct. On revient dans pas long.
Radio et...